Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
Alors voilà, en dernière heure, ce qu'on annonce du côté d'Ottawa, c'est maintenant confirmé. Quarantaine obligatoire, ça l'était déjà, mais là, les vols en provenance et en direction de l'Inde, du Canada et de l'Inde et du Pakistan sont suspendus pour les 30 prochains jours. Bien sûr que la pression était extrêmement forte sur le gouvernement fédéral qui décide donc d'y aller de cette mesure. Une mesure maintenant qui pourrait empêcher, et on le souhaite tous, là, la propagation de ce virus qui s'est répandu de façon très rapide dans certains pays. Et alors, on craint qu'il devienne également chez nous un virus très virulent. Mario, cette annonce d'Ottawa, là, il faut enfin, je pense que du côté de Québec, hier, on entendait le ministre Dubé nous le dire, là, on faisait déjà énormément de pression sur Ottawa, il fallait absolument aller dans ce sens-là.
Pas été facile, l'annonce, par exemple. Ils ont eu de la misère, hey! avec leur Zoom. Excusez-moi.
Hey, mais Zoom, ça donne le fourré. C'est pas évident.
Mais sur le fond, je pense que c'est la décision qu'il fallait prendre. C'est un principe de prudence, là. Je serais tenté de dire, si on veut simplifier tout ça, tu sais, au Québec, on a déjà le variant britannique qui est là, très présent, très répandu, en fait, qui est devenu la première souche de contamination, etc. Puis à un moment donné, on se dit, on a assez de problèmes, c'est assez compliqué comme ça. Les problèmes qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore ou qu'on a très, très peu, puis peux-tu essayer de les garder en dehors des frontières, là, si on est capable? Et dans le cas, le variant brésilien nous arrive d'Ouest canadien, ça soulève la question des vols intérieurs, on pourrait y revenir, mais le variant indien semble vraiment... D'abord, c'est une double mutation, donc des craintes pour l'efficacité des vaccins et des craintes pour une contagiosité plus grande. On voit en Inde, présentement, la situation est très, très, très difficile pour les gens là-bas, pour les hôpitaux là-bas. Donc, on se dit, ayons un principe de prudence, suspendons les vols. Pas facile pour les gens. Il y a des gens qui avaient un billet d'avion demain matin, tout à coup, ça part plus. Je dis pas que c'est facile, mais il y a un principe de prudence pour protéger la collectivité. Et je pense que c'est ce que le gouvernement de M. Trudeau, là, qui se le faisait demander de partout, a fait. Et soulignons quand même qu'un peu plus vite que les fois d'avant. Là.
Oui, c'est un fait. Faites bien de le souligner. Maintenant, en Ontario, on sait que la situation, même Doug Ford, en début de semaine, disait avoir perdu le contrôle. Son gouvernement avait perdu le contrôle. Et aujourd'hui, présente des excuses et d'une façon très émouvante. On peut l'entendre d'abord.
I'm sorry and I sincerely apologize. People telling me their stories, the stories that could make you cry, families that haven't been able to hold hand. Hold on, folks. I apologize.
Ouais. C'était bouleversant pour lui, mais ça me fait penser tellement à l'attitude qu'avait notre premier ministre ici au Québec au moment de la première vague, au moment où on additionnait les décès les uns après les autres, mais on le constate maintenant en Ontario, il y a beaucoup de décès encore.
Ouais, je comprends le poids de la responsabilité, je suis le premier qui va défendre que les élus sont des humains. J'ai quand même trouvé que ce matin, d'abord, s'excuser, c'est correct, là. Tous les gouvernements ont fait des erreurs dans la gestion de la pandémie. Dans son cas, était quand même assez grosse, là, de fermer complètement les parcs. C'était très, très mal reçu, à tout point de vue. Mais, disons que l'impression générale, là, pour une période de crise, c'était pas l'impression d'un leader en contrôle, là. Parce qu'on se dit quand même, là, au-delà de l'émotion et tout ça, il y a des décisions à prendre. Là, leur soins intensifs débordent. Qui mène? Qui donne? Est-ce qu'il faut débloquer des budgets? Donner des ordres au ministre de la Santé? Tu sais, à un moment donné, les gens veulent sentir qu'il y a un leader fort qui est en contrôle de la situation. Et c'est pas tellement ce que les Ontariens sentaient ce matin. Donc, je comprends que la situation était vraiment pas facile en Ontario. Mais j'ai senti un Doug Ford drôlement ébranlé en situation de crise.
Ah, il était.
Je sais pas comment les Ontariens vont percevoir ça en termes de leadership, parce que tu sais, la crise, oui, il faut la vivre, il faut ressentir les émotions de sa population, mais il faut aussi la gérer puis prendre des décisions là.
C'est là-dessus qu'il sera jugé certainement à la prochaine élection chez lui aussi. On a tous autour de nous connu des gens qui ont eu la COVID au cours des derniers mois, mais une figure que vous avez côtoyée beaucoup, vous, à l'Assemblée nationale, Benoît Pelletier, l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales, avec Jean Charest, quelle affaire dans son cas, lui, s'est retrouvé aux soins intensifs?
Ouais, il a été, Pierre, très, très, très malade, ce que sa fille raconte pendant des semaines, à plus qu'une reprise. La famille et les médecins étaient presque résignés à le perdre. Il va mieux, mais... sorti des soins intensifs, sorti de l'hôpital, mais en centre de réadaptation, parce qu'après avoir passé autant de temps dans le coma, aux soins intensifs, c'est toute la motricité, la musculation, tout y passe. Là. Sincèrement, un gars intelligent, respectueux des autres, un collègue que j'ai beaucoup aimé, pas dans la même partie, un chic type, un collègue que j'ai beaucoup aimé, et vraiment à lui, à toute sa famille, là, nos meilleurs vœux de bonne chance, mais c'est un cruel rappel vraiment. Que la COVID, tu sais, dans cette loterie, il y en a qui passent à travers, sont pas trop malades, mais ceux qui y goûtent, ça peut être vraiment terrible.
Ah ben, bonne chance, on lui souhaite la meilleure des chances. Il y a toute sa famille aussi, nos pensées sont avec vous. Merci beaucoup, Mario.
Au revoir.
Demain, 10h sur LCN.
Alors Vincent, ben, tu nous donnes des nouvelles de Mars pour conclure l'émission.
Oui, parce que vraiment, cette mission, persévérance vers Mars, en ligne les succès les uns après les autres.
Ils n'ont pas croisé des Martiens, là?
Pas encore.
Ça aurait été la première nouvelle, oui.
Ou j'aurais commencé avec ça, je pense. Mario, inquiète-toi pas. Mais l'hélicoptère, le drone Ingenuity, a fait son deuxième vol dans les dernières heures. Un vol plus complexe, plus haut, donc 5 mètres au lieu de 3 mètres. On a viré un peu à gauche, viré un peu à droite. Ce sont les premières étapes, mais ça a été couronné de succès. On a 5 vols de prévu, chaque vol de plus en plus complexe. Et l'autre première, qui n'est pas la moindre, Perseverance a réussi à fabriquer de l'oxygène sur Mars à l'aide d'un petit appareil, là, le MOXIE, qui réussit donc en chauffant et avec l'électricité, une réaction chimique, de scinder les molécules de CO2 pour en faire de l'oxygène. On a fait à peu près l'équivalent là, de 5 grammes d'oxygène, donc pour 10 minutes d'oxygène pour un astronaute. Et si on avait cet appareil avec un modèle d'une tonne, on serait capable de fabriquer l'oxygène nécessaire pour une fusée, pour redécoller de Mars et revenir vers la Terre. Alors bref, il y a plein de fonctionnalités très intéressantes. On voulait prouver que c'était
possible. Parce que c'est mal commode d'aller à un endroit dont tu peux pas revenir. Là.
Non, ou de devoir amener vers Mars des quantités incroyables d'oxygène. Ouais. On est mieux de la produire sur place. Alors c'est une très bonne nouvelle, ça a bien fonctionné. Une autre victoire pour Perseverance.
Vincent, merci. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30 pour la dernière de la semaine. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.